Madame, Monsieur et chers collègues, veuillez excuser mon français. Je désire aussi remercier Jean Scheide pour m'avoir invité à ces séminaires sur les jeux séculaires sévériennes. Une étude, une recherche de ma jeunesse que j'ai repris avec plaisir. Alors, dans l'histoire du collège sacerdotal des Quindecemviri, il n'était pas de moment plus important et significatif que la célébration des ludis séculares, tant d'un aspect sacral que politico-social. Dans les procès-verbales augustins, mais en particulier dans les commentariums de 204 que nous examinons aujourd'hui, soucié du détail par rapport au précédent des 17 avant Jésus-Christ, la fréquence notable de la mention du collège dans sa totalité ou de ses membres isolés indique le rôle central que jouèrent dans ces célébrations les Quindecemviri. J'espère. C'est aux Quindecemviri que René ont laissé la surveillance des cultes étrangères, mais aussi la garde et surtout la consultation sur demande du Sénat des Libri Sibillini. C'est aux Quindecemviri qu'incombait en particulier l'interprétation des oracles de la Sibylle, aux Quindecemviri l'exécution des mesures opportunes parmi celles suggérées pour pouvoir éviter ou empêcher les périls et les infortunes qui menaçaient la Respublica. Rôle fondamental, donc, pour la vie et la sécurité de la cité et du peuple romain. Les commentaires, tant augustins que sévériens, ne font aucune mention d'événements qui auraient déterminé la consultation des Libri Sibillini. Ce offre seulement un compte rendu plus ou moins ample de ce qui a précédé la célébration des ludis et les récits de leur déroulement complexe. Les ludis séculares se proposent comme des célébrations visant à garantir la protection de Dieu à la naissance du nouveau séculum, comme le révèlent les sacrifices aux Moere, des qui ont en main les destinées humaines, ainsi que les offrandes aux Ilitias, des protectrices des naissances, et à Terra Mater. C'est pourquoi le rôle des Quindecemviri ne pouvait qu'être fondamental. Et, en effet, il leur incombait formellement d'en fixer et d'en suivre la réalisation. Par ailleurs, comme l'a observé Gauthier Liebermann, il est fort probable que les commentaires des ludis soient extraits des procès-verbales du collège sacerdotal. Il s'agissait donc d'un événement unique à de nombreux points de vue, qui ne se produisait qu'une seule fois dans la vie d'un individu, que l'on pense au passage des Osimes, dans lequel les héros invitent tous les gens à participer à la fête, car il s'agit d'un spectacle qu'ils n'ont jamais vu auparavant et qu'ils ne pourront jamais voir par la suite. Songeons également au passage de la vie suétonienne de Claude, « Ad ludos, quos nec spectasset quisquam, nec spectatorus esset ». Nous pouvons bien imaginer que tous les Quindecemviri entendaient y prendre part. Dans l'intention de faire participer le plus grand nombre possible de citoyens à la célébration des ludis, le Sénat avait disposé la proclamation des jours des ludis comme fériés, l'atténuation du deuil pour les femmes, la suspension des procès. En qualité de membre du collège Quindecemviral, les sénateurs qui occupaient diverses fonctions au service de l'Empire auront fait en sorte d'être présentes. Même le gouverneur d'une province aurait s'éloigné quelque temps avant la fin de son mandat à la faveur de la période durant laquelle l'éludit s'est déroulée. Les commentaires sévériennes, très détaillés mais éparpillés en plusieurs points, révèle le nom de 19 quindecemviri. Il faut y ajouter tout ce qui, pour ainsi dire, de droit, faisait partie du collège en question. L'empereur, Septime Sévère, ses deux fils, Antoninus et Geta, et les préfets du prétoire, Gaius Fulvius Plautianus, Necessarius de Sévère, dans la mesure où le mois d'avril 202, sa fille Plautilla fut mariée à Caracalla. Les 19 dont nous avons les noms constituaient-ils le nombre total des privati appartenant au collège? Faut-il penser que sous l'ère sévérienne, le nombre des quindecemviri n'était pas changé depuis l'époque d'Auguste? Nous savons bien, en effet, que, précisément en vue de l'Udi Seculares qu'il allait célébrer en 17 avant Jésus-Christ, Auguste avait probablement augmenté leur nombre de 16 à 19, sans devoir procéder à la substitution d'aucun d'entre eux. Dans les commentaires relatifs, Augustin, qui, nous pouvons lire leur nom et relever là aussi que s'était ajouté comme membre supplémentaire tant Auguste qu'Agrippa. Pouvons-nous en déduire qu'en 204, les collèges étaient encore constitués de 19 membres auxquels s'ajoutent les 4 membres de la famille impériale? Ceux qui ont examiné ces documents complexes sont loin d'être d'accord sur ce point. Piggy, par exemple, considère que leur nombre s'élevait au moins à 26. Toutefois, si un examen attentif de tout ce qui reste des commentaires sévériens devait confirmer la présence de 19 membres du collège au Ludi de 204, nous ne pourrions plus estimer que la correspondance des membres entre les deux célébrations est fortuite. Voyons si nous pouvons apporter une réponse à cela. L'examen attentif dans l'inscription rapportant les commentaires sévériens n'est guère facile, mais c'est de cette inscription que nous devons partir. Oui. Ici. Tout d'abord, il faut dire qu'une incertitude demeure, même dans la reconstruction actuelle, de l'imposant pilier dans lequel ont été englobés les grands fragments, sur l'extension exacte et largeur du champ épigraphique. Il ne reste, en fait, même pas une ligne conservée dans sa totalité, de marge en marge. Seuls et partiellement les titres, ainsi que les grands groupes de fragments retrouvés en 1930, s'étendent sur une ampleur telle qu'ils consentent aisément à être complétés à gauche et à droite. En outre, si dans la partie médiane du pilier, le texte est gravé avec une discrète régularité, dans la partie inférieure, l'inscription se densifie graduellement en fonction d'un besoin d'espace croissant. En conséquence, les lignes de la partie centrale contiennent environ 165 lettres. Au niveau de la base, elles vont jusqu'à en contenir 180. Les resserrements se révèlent insuffisants pour la rédaction entière des commentaires qui se distendent en effet sur les côtés droits, dans la troisième partie inférieure. Par le passé, On n'a pas tenu compte de ceci dans les diverses tentatives d'intégration des lacunes. En particulier, pour connaître le nom des 15 chambéry participants au ludi, nous disposons de deux listes. L'une, dans la partie médio-supérieure du pilier, est relative à la sortition s'étant tenue le 25 mai des personnes et des lieux où l'on devait pourvoir à la distribution des suffimenta au peuple. L'autre, dans la partie inférieure, est relative au tirage au sort effectué le 2 juin pour la présidence des ludi honorari dans les trois édifices de spectacle au sein desquels il devait avoir lieu. Les deux listes ne sont pas superposables entre elles dans la succession des noms, contrairement à ce qui est envisageable pour les ludi augustaines. Et ceci parce que la première liste est rédigée selon l'ordre d'entrée au sein du collège sacerdotal, alors que la seconde présente les noms selon l'ordre du tirage au sort effectué. Aucune de deux, malheureusement, n'est complète, comme on l'imagine aisément à cause de la fragmentation du texte. Commençons l'examen de la seconde, qui se trouve aux lignes 31-32 du groupe de fragments retrouvés en 1930. Dans la liste sont actuellement lisibles 11 noms, du moins un parti, excusez-moi. Ouvre la série la mention du seul des 19 quinte chambéry dont nous ne pouvons reconstruire le nom. Des sons onomastiques ne sont conservés que les quatre dernières lettres du cognome. Onus, vedete. Et l'indication de la préture, PR, revêtue en 204. Les noms des 15 chambéry sont en effet suivis du rôle des magistrats ou des fonctionnaires revêtus durant l'année des ludi séculaires ou de celui pour lequel ils étaient désignés l'année suivante. La première de quatre lettres a été quasiment unanimement lue par Dill et par d'autres ensuite comme un R. Peut-être aussi parce que une terminaison en rnus consent aisément une intégration par d'un paternus et donc une référence à Cassius Paternus, le consul de 223, sans exclure, comme le propose Jörg Lübke, les Gaius Aquilius Paternus, qui fut septemvir epulonum et consul durant la décennie suivante. Mais la lettre, comme le montre l'image, et mes yeux, est un O, non un R. Cela rend, au moment, non identifiable le personnage, étant donné que jusqu'au présent, pour ce qu'on essaie, on ne connaît pas de sénateur avec un cognome se terminant en onus attribuable au contexte prosopographique en question. En poursuivant, on peut lire le nom, les noms de Ajacius Modestus aux lignes 31 et 32. Hein? Ajacius Modestus, Ofilius Macedo, Nonius Arius Mucianus, Iulius Pompeius Rusonianus, magister du collège en 204. À ce propos, il est opportun de rappeler qu'un seul magister des 15 chambéry est prévu dans les ludi sévériennes, alors qu'il n'y avait 5 dans les augustins. Ensuite, un ample lacune où doit être inséré un nom auquel succède Cassius Pius Marcellinus Questor Designatus. Puis, une autre lacune entre cette ligne et la suivante relative à deux noms et ensuite Sevinius Proculus, Fulvius Granianus, Questor Augustorum, Gargilius Anticus, Manilius Fuscus, Venidius Rufus, Curator Albei Tiberis. À cela devait succéder un autre nom, puis un court espace non gravé devant le début d'une nouvelle période introduite par Tung. Trois des noms à compléter dans les lacunes se trouvent dans les huitièmes fragments gravés sur les côtés du pilier. Ici, en effet, les mêmes quindecemviri tirés au sort sont indiqués en rapport aux trois édifices de spectacle dans lesquels devait présider l'éludit honorarii, cinq pour chaque lieu, donc pour un total de 15. En rouge sont indiqués les trois noms à intégrer. Dans le théâtre, en théâtre ligneo, qui était près du Tarentum, présidait Venidius Rufus, Sevinius Proculus, Fulvius Fuscus Granianus, Gargilius Anticus et aussi Ulpius Soter, consul designatus. Dans l'Odéon construit par Domitien, Pompeius Rusunianus, Vetina Mamertinus, Manilius Fuscus, Cassius Pius Marcellinus et Crescens Calpurnianus. Dans le théâtre de Pompée, un nom est perdu. Puis, le prétor de son quatre, Onus, Aiacius Modestus, Ophilius Macedo, Nonius Arius Mucianus. Ainsi, la liste peut être aisément restituée pour 14 des 15 noms, restitution qui s'écarte de ce qui avait été proposé auparavant par ceux qui s'en étaient occupés, puisque désormais défini sur la base d'un calcul attentif de l'ampleur totale des lignes et des lacunes. Alors, nous pouvons lire à la ligne 31, Onus Praetor, Aiacius Modestus, Ophilius, Iulius, Pompeius, Rusunianus Magister, ici Ulpius Soter, consul designatus. Puis Cassius Pius Marcellinus, une lacune d'environ 12 lettres, puis Crescens Calpurnianus, Sevinius Proculus et, enfin, le nom de Vetina Mamertinus. Le nom d'un des quindecemviri appelé à présider au théâtre de Pompée étant perdu, l'avons vu, le nom à insérer entre Marcellinus et Calpurnianus, Crescens Calpurnianus, demeure indéterminée. À partir du calcul des lettres à intégrer, toutefois, 12, environ 12, nous pouvons affirmer qu'il devait s'agir d'un nom bref, Fabius Magnus ou Salvius Tuscus, deux membres du collège dont les noms apparaissent dans d'autres contextes du document. D'un intérêt majeur, mais non d'une moindre difficulté, se révèle la première liste des quindecemviri, celle relative au présent au tirage au sort des 25 mai in palatio, in aede Apollinis, pour établir qui, quibusque locis in tribunalibus, suffimenta populo distribuere deberent. Ici, les noms sont listés selon les critères d'anciennement. Scusate, c'è qualcosa che non ha funzionato. La vecchia edizione, scusate. Abbiamo salvato un'altra versione del PowerPoint. Cerchiamo di aggiustare la cosa. Ici, les noms sont listés selon les critères d'ancienneté d'entrée au sein du collège. Ceci est confirmé par le fait que dans la série, on voit par exemple un questor designatus précédé un curator albei tiberis ou bien au contraire. Avremmo fatto meglio aggiungere l'altro, perché ora forse è troppo complesso, perché è un po' complessa. En totalité ou en partie sont lisibles 13 noms des privatifs. 13 seulement. Hein? Dans les lignes successives, malheureusement, encore plus fragmentaires, étaient mentionnés les divers lieux de distribution des suffimenta, les mêmes où ensuite les quindecemviri auraient reçu fruges du peuple. Dans ce cas également, l'indication de lieu de distribution suit le nom des quindecemviri opérant dans chacun d'eux, alternant dans la distribution à l'intérieur de chaque groupe. Tout porte à croire que ce lieu ce devait être différent, ne devait être différent de ceux désignés par les commentaires augustins. Ou un palazzo in area edis Apollinis. Excusez-moi, hein? C'est vrai. Alors, tout porte à croire que ce lieu ne devait pas être différent de ceux désignés dans les commentaires augustins. In palazzo, in area edis Apollinis, de même in palazzo ad Romam quadratam, in Capitolio ante edem Iovis optimi maximi, in Capitolio ante edem Iovis tonantis, in Aventino ante edem Diane. Dans les textes sévériens si fragmentaires, les noms des temples ont été perdus, mais il n'y a pas lieu de penser à des changements. Que le temple de Diane soit celui de l'Aventin ne saurait être mis en doute, contrairement à ce qui était fait. Dans les commentaires augustins sont mentionnés les porticus des temples d'Apollon et de Diane. Le sanctuaire de l'Aventin est le plus important et le seul lieu de culte urbain dédié à la déesse qui présenta une colonnade, un enceinte, adaptable à cette fin. Je crois qu'on doit exclure aussi l'hypothèse de Schumacher, qui veut dédoubler les temples de Diane par sa porticus pour individualiser 6 et non 5 lieux de distribution. Dans chacun des 5 tribunaux, semble-t-il, 3 prêtres s'alternaient. Et les heures auxquelles chacun devait effectuer son office étaient également indiquées dans le procès verbal. En totalité donc, dans ces cas aussi, 15 prêtres étaient requis. C'est pourquoi la liste qui précède, qui en prévoit avec ses lacunes en nombre supérieur, ne peut se référer aux seuls quindecemviri extraits en vue de la distribution, comme soutient Schumacher, qui intègre 18 noms, 3 pour 6 lieux. Mon intention est précisément de démontrer que cette liste ne rende pas les noms des préposés à la distribution, tels qu'on tente à admettre, mais mentionne tous les quindecemviri présents au lieu-dit qui se rendirent au temple d'Apollon Palatin pour participer au tirage au sort, et précisément au nombre de 19, comme dans l'éludit Augustin. Pour cette raison, la liste mentionne les prêtres en fonction de l'ordre d'entrée au sein du collège. Pour tenter de compléter la liste, il est nécessaire d'établir, avec la plus grande précision possible, l'extension des lacunes et dans le même temps de prendre en compte les données prosopographiques à disposition pour établir la succession de l'entrée dans les collèges des personnages qui demeurent manquants par rapport aux 13 dont les noms ont été conservés. Les grands fragments centraux portant la liste, comme le montre l'image, peuvent être complétés pour quelques lettres grâce aux 4 premières lignes d'un autre fragment positionné près de la marge de gauche. La lacune entre les deux, comprend 30-35 lettres. Celle entre les fragments central et la marge de droite du pilier, environ 45 en moyenne. Pour procéder à la restitution des deux lacunes, il paraît opportun tout d'abord de présenter la liste de tous les quindicembri qui ont mentionné dans les divers passages qui sont mentionnés dans les divers passages des commentaires. Ils sont indiqués d'après la date d'admission dans les collèges sur la base d'un examen prosopographique. Des groupes peuvent être distingués. Ceux qui appartenaient au collège avant l'arrivée de pouvoir. Ceux qui appartenaient au collège avant l'arrivée au pouvoir de Septime Sévère en 193 et ceux qui ont été cooptés à une date postérieure. À côté de chaque nom, si possible, en indiquer aussi l'année du consulat. Permettez-moi d'apporter quelques précisions concernant ces personnages, qui me permettront également de justifier l'ordre indiqué. De plus amples détails seront à disposition dans une contribution écrite. C'est trop long. Ofilius Macedo, curator Albei Tiberis, N 188, doit être entré dans les collèges durant les décennies 170-180. Son nom apparaît sur une fistula urbaine conjointement à celui de Publius Martius Verus, qui fut consul suffectus en 166. Nous pouvons penser à sa mort à un âge avancé en vertu d'une inscription funéraire urbaine qui dédia une certaine Ophilia primigenia à un nonagénaire dont le nom a été perdu, mais qui était peut-être membre du collège ou rattaché à ces dernières. En Nonius Arius Mucianus, je préfère reconnaître les fils cadets plutôt que les neveux de Marcus Nonius Macrinus, dont le somptueux sépulcre a été récemment retrouvé le long de la Via Flaminia. Ce dernier, mort avant 178, a, pour ainsi dire, laissé un héritage, le quindecemvira à Mucianus. Quant au fils aîné, frère d'un autre, Nonius Arius Mucianus Carbo, comme son père était encore en vie, il fut admis dans les collèges de Saugures. En ce qui concerne Polienus Auspex, qui peut-être était aussi Arvalis, il me semble raisonnable d'envisager sa cooptation entre 175 et 180, peut-être juste après son consulat. Manilius Fuscus a été admis dans les collèges vers 180. Dans les commentaires sévériens, il apparaît comme Magister Quindecemvirorum E203. Son épouse, Flavia Polita, qui l'accompagnera dans son proconsulat in Asie vers 210, et sa fille, Manilia Lucana, sont mentionnées en tête de la liste respectivement parmi les matrons de rang sénatorial et les puelles cantatrices du Carmen séculaire. Au cours de la décennie 180-190, furent cooptés successivement Coceius Vibianus, africain d'origine, comme Iacius Modestus, Atulenus Rufinus, qui avait obtenu le consulat avec Septime Sévère en 190, c'est lui l'Apuleius Rufinus de l'Historia Augusta, et, semble-t-il, Fabius Magnus, curator operum publicorum, en 193, lequel était aussi Lupercus. Gergilius Anticus avait été ad lectus inter familias patricias par commode, et il est entré certainement dans les collèges à la fin de son règne, alors que, du fait de son jeune âge, il n'avait pas encore obtenu le consulat, qu'il revêtit probablement sous Septime Sévère. L'arrivée de Pompeius Rusonianus doit être fixée après ces dernières. Magister durant l'année de Ludis Seculares, il devient consul pendant la dernière décennie du IIe siècle. Un hôtel, retrouvé dans sa résidence près de Gabii, à environ 20 km de Rome, révèle qu'il fut un adepte de la Magna Mater. C'est aussi un patricien, Salvius Tuscus, puisqu'en 181, il avait été coopté parmi les Salii Palatini. Son exauguration, en tant que Salius, devait avoir eu lieu après 191, parce que sont connues toutes les successions dans la Sodalitas de 186 à cette année. Il faisait très probablement déjà partie des quindicemviri avant 193, Vetina Mamertinus, dont nous ne connaissons rien si ce n'est l'origine italienne de Volterra, comme le suggère son onomastique. Maintenant, un rapide coup d'œil à ceux qui ont été cooptés après les collèges pendant les décennies précédentes, les Ludis Seculares. Depuis quelque temps, le recrutement des quindicemviri avenait aussi parmi ceux qui allaient entreprendre les cursus honorum. Crescens Calpurnianus, je pense, a été coopté peu de temps avant l'année 200, avant de partir pour son proconsulat en Macédoine, à dater entre 200 et 202. En 203, en effet, il exerçait les fonctions de Pontifex Volcani à Ostie, lieu dont il était originaire. Peut-être qu'avant même son tribunat laticlave, dans la seconde légion Odiotrix, Cassius Pius Marcellinus était entré dans le collège, lui qui apparaît en 204 comme questor designatus pour l'année suivante. Pour des raisons chronologiques, je ne crois pas qu'il puisse être assimilé au consul designatus du 214. Celui-là précède le consul désigné de 205, Ulpius Soter, dont nous ne savons rien. On peut à peine postuler, à partir de son onomastique, une origine orientale. Venidius Rufus avait été consul suffectus entre 199 et 202. Lui, qui était curator Alvei Tiberis en 204, et qui s'apprêtait à partir pour gouverner la Germania Inferior. Avant ce dernier personnage, Fulvius Granianus, entré probablement tout juste à la veille de Ludis et qui en 204 avait obtenu la questure comme candidat de Septime Sévère et Caracalla, avait pris place parmi les quindicemviri, le préteur inconnu de 204, ainsi que Sevinius Proculus. Ce dernier, en 199, était un tribunus dans la légion IIIe Augusta à Lambesis, lorsqu'il y avait érigé une dédicace à Timgad pro salute de Septime Sévère et de la Domus Impériale. À cause des rapports difficiles entre Septimius Severus et le Sénat, dans les années suivantes, certains auront d'autres fonctions plus prestigieuses, d'autres, comme Dugin Granianus, on n'aura plus de traces. Maintenant, suivant l'ordre déterminé, à travers ce qui reste du texte épigraphique et les données prosopographiques à notre disposition, nous pouvons insérer dans les lacunes à gauche et à droite du grand fragment le nom des 6 personnages qui vient compléter le nombre de 19. Dans la première ligne, qui nous intéresse, le numéro 8 du Framont, au verbe ad fuerunt, spero si legga, non so, ad fuerunt, font suite le nom des quindecemviri de droit, septim sever, ce défis Antoninus jeta et Plautianus, indiqué seulement à travers sa carrière abrégée, PRPR. À la fin de la ligne, commence la liste avec le nom d'Ophilius, Ophilius Macedo, puis de Nonius Arius Mucianus, Pollienus Auspex, Manilius Fuscus, Coceius Vibianus, Atulenus Rufinus, Iacius Modestus, Fabius Magnus. E poi Vetina Mamertinus, Gargilius Antiquus. Poi Iulius Pompeius Rusonianus, Magister, Salvius Tuscus, Crescens Calpurnianus, Cassius Pius Marcellinus, Ulpius Soter, Venidius Rufus. Suivent le nom du prêteur de 204 et de Sevinius Proculus. Avant, Fulvius Granianus, ce dernier clôt la série comme indique l'espace vide après son nom. Avec une moyenne de 165 lettres par ligne, les 19 noms trouvent tous leur emplacement en suivant l'ordre suggéré sur la base de ce que nous savons. Comme nous le disons, le retour au nombre 19 ne peut être le fruit d'un hasard. Je crois qu'il nous est possible d'affirmer que d'Auguste à Septim Sever, les quindecemviri ne virent pas augmenter le nombre des membres du collège. Enfin, une réflexion sur la présence de Gaius Fulvius Plautianus dans les commentaires sévériens. Le préfet du prétoire, qui avait pendant longtemps joui d'une protection quasi inconditionnelle de la part de Septim Sever, au cours de 204, avait peu à peu vu décliner son étoile. Et cela, surtout, en raison de l'action de Jeta. Les frères de Sever Jeta, alors qu'ils allaient mourir, avaient encore une fois mis en lumière la soif de pouvoir, la cruauté et le despotisme du préfet du prétoire. En cela, l'élimination violente de celui-ci, le 22 janvier 205, survint comme l'inévitable conclusion d'une fin annoncée. En conséquence, il semble significatif que son nom ne soit jamais exprimé dans les prolixes comptes rendus des événements de 204. Celui-ci est toujours et uniquement indiqué à travers sa magistrature, abrégée PRPR. Prefectus Praetorio, qui suit très souvent les noms, ici le cas, de César Jeta, qui par la suite fut effacé. Mommsen a voulu lire son nom sur les premières lignes du texte épigraphique, là où il aurait été effacé ensuite conjointement à celui de Jeta. Mais, comme on peut le révéler, la reconstruction graphique que je présente, il ne pouvait y voir d'espace suffisant pour les éléments onomastiques de Plautianus, suivis naturellement de la charge revêtue, dans la partie effacée au début de la cinquième ligne, avant Pridie. Mais si nous admettons pour Jeta une abréviation du titre Nobil Caes dans la quatrième ligne. Je ne suis pas encline, pour cette raison, à exclure que la rédaction du commentarium sur marbre, issu des procès-verbaux du collège des quindecemviri, comme il a été dit, a été réalisée lorsque, déjà, l'étoile de Plautianus était définitivement éteinte, c'est-à-dire après le mois de janvier 1905. Entre, excusez-moi, encore une très brève observation. Nous avons pu constater qu'entre les quindicembri, il n'apparaît peut-être aucun Valerius, alors qu'au moins deux patriciens, représentants de la gens, appartenaient au collège sacerdotal pendant les ludies augustaines, Potitus Valerius Messalla et Marcus Valerius Messalla Messalinus. Pourtant, à l'époque de Sévère, la gens Valeria comptait toujours un nombre non négligeable de représentants dans la vie publique. Avec le temps, on avait perdu peut-être la mémoire et la valeur du lien entre les Valéri et l'origine mythique des ludis séculares. Les ludis sévériens ne se déroulèrent pas dans l'atmosphère de joie confiante, de dignité morale, de sécurité politique qui avait caractérisé les ludis d'Auguste, mais eurent certainement un impact remarquable dans l'imaginaire collectif du temps, même si désormais la mystique impériale, sous le patronage de l'idée séculaire, prétendait en réaliser l'exaspérance. Excusez-moi pour mon français. Thank you.